8h49 sur France Culture. La transition d'Hervé Gardette. Vous voulez revenir, Hervé, sur le plan hydrogène présenté hier par le gouvernement.
Avez-vous déjà entendu parler de Jean-Luc Perrier?
Non,
probablement pas. Eh bien, ce professeur de mécanique à l'université d'Angers, disparu en 1981 dans un accident de la route, fait partie de la cohorte de ces inventeurs restés anonymes pour avoir eu raison trop tôt. Le 21 janvier 1979, la Nouvelle République du Centre-Ouest lui consacre un article. Il vient d'inventer la première voiture à hydrogène alimentée par l'énergie solaire. La voiture, en l'occurrence une vieille Simca 1000, récupérée chez un carrossier pour la modique somme de 200 francs. Sur la photo qui illustre l'article, on le voit posant à côté de son véhicule, sur lequel il est écrit en grosses lettres « Soleil plus eau plus matériel égale carburant inépuisable et propre égale l'hydrogène ». Alors, comme l'écrit l'auteur du reportage, après avoir testé le prototype sur quelques mètres en circuit fermé, à une époque, nous sommes en 1979, à une époque où l'humanité compte en années ses réserves de pétrole, où l'Occident vit dans la hantise du prix du pétrole qui pourtant n'est pas payé cher, en ce sens que rien n'est fait pour en renouveler les réserves, faire marcher une voiture à l'hydrogène est un rêve. Alors, 40 années ont passé et l'hydrogène n'a, semble-t-il, rien perdu de sa puissance onirique. Il fallait entendre la ministre de la Transition écologique hier pour s'en convaincre. L'hydrogène fait rêver. Nous sommes en train de poser une pierre qui comptera pour les générations futures. C'est une nouvelle aventure pour le génie français, s'est enthousiasmée Barbara Pompili à l'occasion du lancement de l'ambitieuse stratégie nationale pour le développement de l'hydrogène décarboné en France. C'est comme ça qu'elle s'appelle.
Une nouvelle utopie.
Il faut dire que tous les éléments chimiques connus, Guillaume, l'hydrogène est celui qui, si l'on en juge par ses élateurs, se rapproche le plus de la pierre philosophale. On peut ainsi lire dans un rapport ministériel publié en juin 2018 qu'il est le plus abondant dans l'univers, que sa combustion libère 3 fois plus d'énergie qu'une même quantité d'essence et qu'il ne rejette pas de dioxyde de carbone, mais seulement de la vapeur d'eau. Alors avec tous ces atouts, on peut s'étonner qu'il ait fallu attendre aussi longtemps pour que l'État en fasse un axe central de sa politique énergétique. Pour l'heure, la production nationale d'hydrogène industriel ne représente que 900 000 tonnes par an. Ça devrait considérablement augmenter dans les prochaines années sous l'effet des 2 milliards d'euros mobilisés sur ce sujet dans le plan de relance du gouvernement. 7 milliards au total à échéance 2030. Alors pourquoi avoir attendu autant? Eh bien parce que pour changer d'échelle, il fallait une condition sine qua non. Que cette énergie soit plus avantageuse que ce qu'elle est censée remplacer. Or, si l'hydrogène ne rejette pas de CO2, sa production repose essentiellement à 94% sur les énergies fossiles, augmentant d'autant son impact environnemental. Alors certes, vous allez me dire, Guillaume, la technique qui permet de produire de l'hydrogène vert existe. Il suffit que sa production par électrolyse de l'eau soit faite à partir d'électricité renouvelable, mais cette production coûte cher, trop cher pour être compétitive. D'où l'intérêt d'avoir l'État derrière soi pour sécuriser les investissements et développer une filière compétitive et aboutir, pourquoi pas, comme l'a promis hier le ministre de l'économie Bruno Le Maire, au premier avion neutre en carbone d'ici 2035. C'est d'ailleurs à une intervention publique que songeait Jean-Luc Perrier en ce mois de janvier 1979, en confessant ne pas vouloir dépasser pour sa part le stade du prototype. « Je veux, disait-il, attirer l'attention des pouvoirs publics et des industriels sur les solutions possibles aux problèmes énergétiques qui se posent à notre pays et à tout le monde industrialisé. » Ensuite, ce sera à eux de jouer. Alors on verra bien dans 40 ans si le plan présenté hier marque un tournant ou bien s'il faut le ranger dans la liste des échecs de l'État stratège. Mais on peut en tirer une leçon. En matière énergétique, en tout cas, une innovation ne vaut rien en elle-même sans volonté politique.